et bienvenue, nous sommes le samedi 10 juin 2006, il fait beau, oui, il va faire chaud, enfin en tout cas si ça éclate pas, je sais pas, il paraît qu'il va pleuvoir demain, et vous écoutez la radio. Bonjour du sport, j'espère que tu vas bien. Ouais, bon, d'accord, ok, il suit pas, il est en train de réviser. Comme tous les samedis, FMR ouvre avec les magazines, suppléments week-end, BD, télévision, pas de Thomas cette semaine, puis le cahier du sport spécial, Coupe du Monde, et à partir de 15h, du mix avec en mode progression, à partir de 16h c'est Big Bang, 17h c'est Vie d'Ordure, c'est du punk, 19h Happy Hour, sortez les petites olives avec les trucs qui piquent au milieu, ça fera plaisir à Serge Julie, 20h la Stétéro Expérience avec DJ Trop, et quand c'est trop, c'est non, la blague est trop nue, je la refais pas, 21h30 Liquid Sky, toujours de l'électro bien barré, et à 23h Breakbeat Experience et la Jungle Trombe Bass avec Peyo et SKS, et nos émissions sont en direct jusqu'à 5h du matin, et vous pouvez nous retrouver en FM sur 89.1 MHz.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Et aussi en différé, voilà. Supplément week-end commence aujourd'hui avec malheureusement pas vraiment une bonne nouvelle, puisqu'il s'agit de la disparition d'un des dessinateurs cultes de la ligne franco-belge. Donc ça, bah oui, c'est comme ça. C'est un peu triste. Puisqu'on a appris la disparition de Peyo, le créateur, bien évidemment, de Peyo, je dis une bêtise, de Robin, de Boulet-Bill. Boulet-Bill, bah ouais, il y a un autre Bill aussi qui est parti, ça on verra. Et puis voilà, je suis tout confus, je suis désolé, mais ça me fait un peu un pincement au cœur pour les petits rouquins. Red Snapper featuring MC Deet, Sucker Punch. sais que je suis pas sûr du sport, mais je crois que je me suis encore planté. J'ai annoncé qu'on était le 10, c'est pas le 17. J'ai réussi encore une fois à me tromper. Ben oui, faut pas lire comme ça, bêtement. Les conducteurs, sans les relire, et qu'est-ce que tout vaut ? Eh ben oui, ben, malgré tout. Des fois ça arrive, on est un peu pris par le speed du direct, l'ambiance et tout ça. De toute façon, vous pouvez réécouter cette superbe boulette tout simplement en nous écoutant sur le podcast de l'émission. C'est très simple, un podcast en fait, c'est une sorte de fil d'infos continu dans lequel dès qu'il y a une nouvelle émission qui est mise en ligne, une émission de radio, voire parfois de télé maintenant, vous le recevez automatiquement, vous pouvez le transférer dans votre baladeur si vous voulez, l'écouter plus tard chez vous, vous êtes tranquille. Bref, c'est un peu un magnétoscope à la demande, par abonnement, c'est gratos, donc plutôt en profiter. Et en plus, vous aurez les liens vers les pages des émissions, c'est-à-dire les chroniques textes. Et comme ça, si vous voulez dire « Ah non, moi je suis pas d'accord avec ce que tu as dit là, c'était pas sympa, etc. » Bon, c'est l'occasion. Eh oui. Allez, qu'est-ce que l'on peut annoncer ? Oh, allez, on va commencer d'abord par la prog des sorties de ce soir. D'abord, il y a une Battle Royale Contest MC and DJ préparée par Kamikaze et BSG. C'est avec les DJ Nice, S-Time, Freddy Massif et animé par Mista. C'est à la cave le Ragtime et c'est du hip-hop. Donc c'est un contest de hip-hop. Si vous voulez vraiment quelque chose qui bouge, qui cartonne là-dessus, c'est plutôt fort. À noter qu'il faut s'inscrire à l'avance, donc je peux pas donner le numéro de téléphone à l'antenne parce que c'est un numéro de téléphone personnel, mais néanmoins sachez donc qu'il y aura les stéréotypes sans jury et DJ Logilo, et puis voilà, la prêt d'entrée est de 5 euros, d'accord. Allez, c'est par les jeunes, moi je comprends pas. C'est à la cave le Ragtime, c'est à partir de ce soir, à partir de 23h, et c'est jusqu'à 6h du matin. Tout à fait autre chose avec du jazz, le festival Jazz Dog, c'est à OVR, c'est dans le Tarn-et-Garonne. C'est à partir de 18h, il y a un apéro tapas avec un concert gratuit, les pinces à linge. À partir de 21h, à la place du château, je rappelle que c'est à OVR, hein, voilà. Le Sylvia Howard Quartet et le Stéphane Huchard Quartet. Et le tout, c'est sous le haut patronage de nos copains de Radio Doc qui vont transmettre les programmes de radio FMR, justement, dans le Tarn, Tarn-et-Garonne, Moissac et Montauban. Et les fréquences, si je me souviens bien, c'est 88.5 et 94.2 dans ces régions-là, voilà. Le tarif pour les concerts Place du Château, c'est 20 euros ou normalement, c'est tarif réduit, 12 euros, suivant les conditions, c'est à voir sur place. Le mercredi prochain, c'est la fête de la musique. Alors évidemment, il y a des annonces partout qui sont arrivées. Il y a la MJC de Carbone, par exemple. Il y a aussi le plateau qui est organisé par Radio FMR. Un plateau de mix et DJ. On n'a pas pu prendre des groupes en live cette année. Désolé, c'est comme ça. Vous verrez par vous-même, on passera tout à l'heure le programme des réjouissances. Et sinon, du Hans Hall Raga Party et Scratch Party, c'est au Liquid Club. C'est vendredi prochain. Une soirée exceptionnelle avec Monsieur Lézard, s'il vous plaît. Man Max Crazy, Don Gocho et Carino. C'est à partir de 22h l'entrée de 4 euros ou 10 euros si vous repartez avec la mixtape, et plus d'informations sur reggae-vibes.fr pour écouter aussi la soirée en live. Donc voilà, c'est vendredi prochain au Liquid Club et ça commence normalement à partir de 22h. Mercredi dernier, la Franco-Belgie apprenait avec émotion la disparition à 76 ans de Roba. Roba, c'est le créateur de la ribambelle, mais surtout d'une série qui est immensément connue, Boulet Bill. Jean Roba est né le 28 juillet 1930, près de Bruxelles. Et après des cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, il débute à 16 ans dans la publicité. Il y apprendra toutes les techniques des arts graphiques et finira chef de pub d'ailleurs. Et à l'âge de 22 ans, à la sortie de son service militaire, il entre dans un studio de dessin publicitaire où il va faire une très très bonne carrière. En 1957, Franquin le fera entrer chez Dupuis. Il faut dire que Franquin commençait à être légèrement saturé de boulot et dire qu'il venait à peine d'esquisser le personnage de Gaston Lagaffe à l'époque. Hein. Roba va participer au journal de Spirou. Il va participer au dessin avec les belles histoires de l'oncle Paul et aussi celle d'un petit Sioux qu'on verra dans une histoire complète. Mais c'est dans un mini-récit de 1959 co-signé avec Maurice Rosy, qui était à l'époque directeur de Spirou, que naisse un petit rouquin aussi coquin que son cocker, Boulet Bill, personnage qu'il animera jusqu'en 2003. À côté, il créera la Ribambelle, qui participera aussi à trois aventures de Spirou et Fantasio, et il se lancera même dans un supplément en cave avec le trombone illustré. Mais jamais il ne délaissera Boulet Bill, dont il créera suffisamment de gags en une planche pour faire une bonne bibliothèque familiale, c'est-à-dire pas loin de 30 albums, et si je me souviens bien, il y a eu deux histoires complètes de Boulet Bill. Pour ceux qui n'ont jamais connu Boulet Bill en BD, ouais, je sais, ça existe, on ne sait jamais, et bien, peut-être que ces grands-enfants-là se souviennent encore de la série animée produite par la RTBF, c'était au début des années 1980, et que les plus jeunes ont vu celle en cours de production par Dargo, justement. Jean Robat, hélas, nous a quittés. Il laisse un éternel gamin, son fils Boule, un cocker épleuré et des millions de fans reconnaissants. Nos pensées vont à son fils Boule et à toute sa famille. Et les dessinateurs Dupuis ont ouvert une page où chacun y va de son dessin en hommage au maître. Vous pouvez retrouver sur le site internet de l'émission, et bien justement, on a mis le lien en hommage, Bill au portail. La série continuera, reprise depuis 3 ans par l'un des anciens assistants de Jean Robat. Il s'agit de Laurent Véron, déjà connu pour la série Odilon Verju, qui était sortie à l'époque chez Le Lombard. Merci à Didier Passamonique d'ActuaBD pour son aide. Et donc, l'enterrement de Robat a lieu, si je me trompe, je crois que c'est demain. Voilà. D'ailleurs, il y a un dessin assez sauvage dans la page des dessinateurs du Puy. C'était Léturgie qui avait fait un dessin assez ignoble au moment de la mort de Franquin. C'était dessiné manière Lucky Luke. Et tu as Rantanplan sur la tombe de Franquin qui fait « Mon maître, si je regrette, mon cher créateur ». C'était très con, c'était très rigolo. Non, c'était pour le décès de Maurice qu'il avait fait. Et à côté, ben là, c'est à peu près le même gag. Donc tu as un tas de terre avec la croix marquée Jean Robat 1930-2006. Et tu as Bill épleuré qui fait « Mon Dieu, quel gâchis, tous ces os ». C'est ignoble. Mais vous allez me dire, hasard de l'actualité, je peux faire que plus ignoble. Eh ben oui, mercredi, donc, Robard nous quittait. Jeudi, Bill annonçait qu'il quittait le fonctionnement quotidien de Microsoft. Et ça, de Bill Gates, hein, vous vous en foutez un peu. Hein, ouais, je vois du sport qui fait... Pourtant, si on cherche bien l'un dans l'autre, à secouer les puces, jeudi dernier, là où Bill le chien pleurait les os de son cher maître disparu, Bill Gates a lâché son vieil os tout rongé et plein de trous. Un OS, oui, comme Windows. Ah merde, crotte, caca, bouse de cocker. J'ai marché dedans. Ah ouais, bah il y a Marc Ollanier, qui est journaliste de CSO France, qui a contaminé mon billet, le con. Et à propos d'informatique, Bruce Schneier, qui est un célèbre gourou de la sécurité informatique qui est très connu aux États-Unis, a lancé un concours de scénarios catastrophes aux lecteurs de son blog. Imaginez un terrible attentat aussi fort que le 11 septembre. Budget 100 000 dollars et une douzaine d'hommes. Le script du film est assez glaçant. Le principe, c'est qu'il fallait que ça soit réalisable, que ça soit vraiment un truc d'artisanat, style avec des cutters, détourner des avions et l'envoyer dans un gratte-ciel. C'est vraiment se dire, non, l'Amérique ne sera jamais prête. C'est une illusion que vouloir être prêt contre le terrorisme. Le script, donc, qu'il a choisi est assez glaçant. Et j'espère que Thomas en parlera la semaine prochaine parce que c'est quand même assez intéressant. Midi et 15 minutes, vous écoutez le supplément week-end de Radio FMR. Spirou est un peu loin finalement de ce qu'il était au moment où Roba est rentré, c'est-à-dire une bande dessinée jeunesse qui était encadrée en France exclusivement par la loi sur la protection sur la jeunesse, etc. Quand on ouvre un Spirou actuellement, on est assez surpris de la violence ou de la crudité de certaines choses qu'on peut y trouver. Il y a eu notamment Soda. Du Gommier au scénario et Herse au dessin, la série s'appelle Les Démons d'Alexia. Le troisième tome vient d'arriver donc justement chez Dupuis, c'est là où est prépubliée cette série. Et le troisième tome s'appelle Yortopia. Alexia, c'est une jeune exorciste très jolie et très compétente, dont les talents exceptionnels lui ont valu une place dans l'équipe du CRPS, le Centre de Recherche des Phénomènes Surnaturels. Oui, mais il semble qu'Alexia a troublé pas mal de choses depuis son arrivée dans cet établissement. Et notamment les expériences et événements occultes ont entraîné le réveil de l'ancien directeur. Un gars complètement frappadin qui s'est mis lui-même dans le coma depuis 20 ans pour produire un puissant sortilège de protection contre la zone 85 menant à la porte du pays mythique Yortopia. Mais sorti de sa léthargie, le directeur révèle l'horrible fonction première de cet organisme. Car le CRPS n'est pas un gentil labo de recherche sur l'occultisme. Non, c'est une entreprise d'extermination des sorcières, par le feu et sans autre forme de procès qu'en sorcellerie. Quand Alexia y est entrée en tant qu'exorciste, elle ne pensait pas qu'elle était héritière d'une de ces sorcières et que le réveil du directeur inquisiteur fanatique allait la mettre en grave danger de mort. Poursuivie par un inquisiteur complètement fanatique, la belle Alexia a dû fuir le centre de quatrième vitesse et n'a plus d'affaires ni même de moyens de subsistance. Chassée de l'hôtel Borgne où elle a trouvé refuge, elle se préparait à sa nouvelle condition de SDF quand Bérénice, secrétaire de direction, qui est encore son amie, arrive à lui sauver la mise, lui attribuer une mission sans en référer à quiconque. Donc voici Alexia, direction la Norvège pour une histoire d'enterré vivant sur les fonds secrets du CRPS, enfin bon. Une probable malédiction qui trouble un village perché en haut du cercle arctique. Ça ne calme pas pour autant l'ambiance. L'inquisiteur, directeur du CRPS, tient à avoir une descendante. Cette charge ne revenant que par héritage dans sa famille depuis le procès de Salem. Elle est bien motivé à passer Bérénice, la gentille secrétaire, à la casserole, de gré ou de force. Alexia, elle, veut absolument entrer à Yortopia, le mythique pays de la magie. L'endroit qui, forcément, répondra à ses attentes sur ses origines et son avenir. Ce qui signifie pour Alexia de revenir au centre. Au risque de se faire tuer par l'inquisiteur directeur, de braver les dangers mortels de la zone 85, et en entrant dans Yortopia, de choisir définitivement sa voie, finalement magie blanche, magie noire, ou... Alexia restera-t-elle exorciste ? L'esprit de son ancêtre voudrait bien que sa filleule reprenne son héritage et fasse carrière dans la sorcellerie. Bref, une saine ambiance de travail, quoi. Une sorcière chez Dupuis, qui est bien pour les grands et petits, c'est Mélusine, un univers gentil et un peu cynique. Mais les démons d'Alexia, c'est autre chose. Un dessin très franco-belge, aux couleurs chaleureuses, on se souvient de Muriel et Boulon, des mêmes auteurs, sauf qu'il est animé d'un scénario assez noir, voire très dur. Heureusement, les auteurs arrivent à seulement suggérer les scènes qui sont extrêmement sordides du scénario, mais la violence de l'histoire et la richesse de l'intrigue font que cette série magique mériterait d'être qualifiée d'adulte. À mon sens, ce serait plus une reconnaissance qu'une punition. Sur un scénario de Dugommier et un dessin de Herse, Les Démons d'Alexia, le troisième tome est sorti chez Yortopia. S'appelle Yortopia et est sorti chez Dupuis. Au scénario et au dessin de l'excellente série Les Voyages des Pao, c'est chez Dargaud. Et le troisième tome vient d'arriver dans les bacs. Non, il est arrivé depuis un mois. Et s'appelle « Quand s'éteignent les lampions ». L'héroïne du moine fou continue sa quête vers la quiétude. Et Pao, ben, est-ce que cette jeune femme arrivera un jour à se débarrasser ou à apprivoiser la malédiction de l'enseignement martial complètement dément ? Si cet art, dont elle est la seule dépositaire, lui donne une force et une agilité surhumaine, l'usage en altère ses sens, son corps et ses pensées. C'est pour ça qu'elle fait tout pour ne pas avoir à en user jusqu'à ce qu'elle arrive à calmer la chose. Malheureusement, le pesant héritage est convoité par des milliers d'individus louches, prêts à tout pour le récupérer. Pour le pouvoir, bien sûr. Et ces personnes sont si puissantes qu'elles ont des espions partout dans l'Empire du Milieu. Or, un enseignement ne se voit pas. On peut espérer se fondre dans la foule avec ses connaissances secrètes. Sauf qu'on est dans la Chine impériale du Moyen-Âge, et Kepao est orpheline de marchands vénitiens venus faire commerce dans l'Empire du Milieu. Une caucasienne à la peau blanche comme la mort a plutôt peu de chances de passer réellement inaperçue au milieu de la foule des ethnies Han, bien évidemment. Accompagnée de Taishi, Pao va passer la nuit dans une ancienne demeure en ruine, en compagnie d'autres miséreux et autres vagabonds. Dans la nuit, les murs révèlent leur ancien propriétaire italien, et Pao va interpréter le songe comme l'appel de ses parents. Un sommeil troublé réveille douloureux. Taishi a été enlevé par la confrérie des mendiants, un des nombreux prétendants à l'héritage du moine fou à qui Pao a déjà eu affaire. Sauf que cette fois-ci, ils connaissent déjà la femme et sont sans méfier. Comment Pao va-t-elle sortir son compagnon de la route de ce très mauvais pas ? Vink est un conteur merveilleux et son graphisme font de ses planches des tableaux magnifiques où le regard se perd volontiers. Son décalogue du moine fou était un bonheur à lire. Les voyages d'Epao en sont le prolongement de cet état de grâce. Un univers envoûtant, celui de la Chine moyenâgeuse, une lecture passionnante par ses histoires, un dessin superbe qui ravit les yeux devant sa minutie. Que penser de plus sinon... Oh, on peut demander à ce que cela dure, pourvu que Vink ne s'en lasse pas. Vink, les voyages des Pao, le troisième tome donc s'appelle Quand s'éteignent les lampions et vient de sortir chez Dargaud. Croyez ranger des chaumières, la selle au placard, maquée pour la vie, il s'agit de la gâchette du Rango. Et pourtant, il remet ça. Yves Wolf, toujours le créateur de la série au scénario, mais cette fois-ci dessiné par Thierry Giraud. Du Rango, le tome 14, Un pas vers l'enfer vient de sortir chez Soleil. Eh oui, parce que du Rango, voilà qu'il revient, qu'il fait couler le sang et parler la poudre dans les blés de l'ouest profond. Une piste, Lance Aron, qu'il remonte au pistolet, un... respectable homme d'affaires qui s'entiche à racheter pour un prix presque honnête des mines archi-rentables. Le truc du safe main man dans la négociation, l'envoi de vilains pas beaux, histoire de bouger un peu les intérieurs raffinés, des pieds tendres récalcitrants. Et c'est justement en remontant le fil des hommes de main que Durango se rapproche de plus en plus de l'homme qui orchestre ses chantages organisés. Le genre dont justement est victime Mr. Gainsworth, et que sa femme souhaiterait qu'il cède pour retourner vivre à l'Est, dans des terres nettement plus civilisées, histoire de donner une éducation normale à son chérubin. Oui, mais là, il y a Durango qui arrive, avec son cigarillo, aussi étincelant que son regard. Et pour piéger son gibier... Oui, regard de Bresse, forcément. Et pour piéger son gibier, il va forcément jouer de l'appât avec la veuve et l'orphelin. Dommage pour ses oies blanches. Et blanches ne sont pas les lois de l'Ouest, non pieds tendres. Ce sont de sales p*** qui se font p*** jusqu'à l'os par tous les coyotes de la plaine. Durango, c'est la chaleur du soleil qui écrase les couleurs des pages. Les crépis craquelés, attaqués par les intempéries en tout genre. Vent, chaleur, pluie, feu et balles. Des personnages rarement rasés, bardés de cicatrices, aux dents cariées et aux vêtements rapiécés et boueux. L'hygiène de leur écuelle ne vaudra jamais celle du soin à garder les cigarios propres. Quant aux chevaux, ce sont plus des scies pour les gunfights que pour de réels, inséparables compagnons équidés. La crasse morale des personnages, la noisseur des héros, un monde sans réel bon, qu'avec des brutes et encore plus de truands. Un vrai western spaghetti en BD. Quand j'ai lu l'un des premiers Durango, c'est là que j'ai apprécié l'apport du cinéma italien et espagnol sur les productions hollywoodiennes. Durango, c'est aussi un style, des accessoires assez particuliers du personnage principal, la mitaine à la main gauche, avec laquelle il fait chanter son petit automatique allemand, lui donnant un sérieux avantage sur les autres outlaws, préférant les barillés américains. Un solitaire écumant l'Ouest sauvage, n'hésitant pas à s'allier avec les desesperados americanos, comme Amos, à briser cœurs et idéaux. Durango, comme tout le monde le pensait à la retraite depuis que Eastwolf versait dans les histoires de vampires, eh ben non, il a décidé de remettre le couvert uniquement au scénario. Heureusement que Thierry Giraud, déjà aperçu dans la série Wanted, celui qui a repris la succession au dessin, se montre aussi pointilleux que lui. Réussite, d'un coup, je me suis senti revenu 15 ans en arrière quand je lisais le tome 5, La Syrah Sauvage. Eastwolf au scénario, Thierry Giraud au dessin, Durango, le tome 14 vient de sortir, Un pas vers l'enfer, c'est chez Soleil.
Pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, 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 ay.
Como quien pierde una estrella, c'est par les mariachis de Arriba Juarez et c'est chez Prodisc Mexico. Donc vous aurez un peu de mal à le trouver. Vous êtes sur FMR 12h32.
And now, the news.
Le fantasy mondial du supplément week-end vous est résumé par du sport. Bonjour du sport.
Bonjour. Je sais pas parce que j'ai un problème dans le casque, c'est pour ça que je répète un petit peu l'opération. Compte rendu donc de cette deuxième semaine de supplément week-end FMR Fantasy Mondial. Hier avait lieu dans le groupe E la rencontre entre les Griffons d'Or, une équipe menée par Harry Potter, et les Star Wars, avec Luke Skywalker comme capitaine. Et effectivement, Jar Jar Binks a écopé d'un carton rouge pendant l'une des rencontres amicales juste avant la compétition. Pour blague pas drôle du tout, le privant justement de cette compétition. Le match a été arbitré par le capitaine Picard, que je soupçonne un petit peu de favoritisme en faveur de Gryffondor, vu qu'il y a plus d'acteurs anglais dans Gryffondor que dans Star Wars, hein, du moins.
Non, c'est vrai.
Pour aller à l'essentiel, le score final est de 25 à 24. Hein, le match a été très, très, très serré. Ce sont finalement donc les Star Wars qui l'ont emporté sur la séance de tir au but. Le gardien Ron Weasley ayant piteusement déserté le terrain après s'être réjoui d'avoir arrêté un pénalty tiré par Chewbacca. Mais il faut féliciter les actions superbes de Harry Potter, Hermione Granger et Angelica Johnson pour avoir réussi à intercepter plusieurs fois la balle et dans les passes entre Han Solo, Leia, Palpatine, la défense des vainqueurs laissée à désirer, hein, entre C3PO et R2D2, sans compter le manque d'agilité de Jabba le Hutt. Mais enfin, ils sont passés quand même. Autre résultat. Invisible Girl des Fantastic Four, des 4 Fantastiques, donc en version française, a écopé d'un carton rouge. Il fallait pas faire de fauchage, ça s'est vu aux caméras infrarouges et par l'arbitre qui était quand même au Silver Surfer. Forfait des 4 Fantastiques donc face à Dragon Ball Z, 3-1. À noter qu'une tribune a pris feu suite à un Kamehameha. Et dans le groupe H face aux Vampire Slayers de Buffy. Avertissement contre l'équipe La Confrérie de l'Anneau, plus précisément à propos de son gardien qui refuse systématiquement de rendre le ballon quand il l'arrête. Gollum a déclaré à propos du ballon de foot
« C'est mon précieux !»
Un commentaire qui fera sûrement plaisir aux sponsors. L'arbitre Hulk Hogan a dû plusieurs fois y mettre les mains et même des baffes pour raisonner l'indélicat. Victoire des Vampire Slayer 3-2. Dans le groupe D, les jeunes Giscardiens ont perdu 3-0 face à l'équipe de la Star Academy. Commentaire de Valérie Giscard d'Estaing. Nolwenn Leroy, c'est insupportable, mais la convention de Genève devrait faire quelque chose contre les chansons de Jean Pascal.
Je crois.
La Tsuasa New Team de Olivier Tom se sont fait
exterminer
par les Daleks de Scarrow, 11-0. Dommage pour Olivier Tom. Jill Grissom du CSC Las Vegas, qui arbitrait donc la rencontre, annonçait qu'il ne fera pas de reconstitution. À noter aujourd'hui, les Spurs de San Antonio ont un gros problème avec les règles du football. Hein, ils ont tous fait faute de main. Ils s'obstinent à placer le ballon au-dessus du filet. Donc, ça peut pas le faire, mais face aux éléphants du PS qui n'arrivent pas à s'organiser, finalement, ça devrait être quand même du gâteau pour les Spurs.
Ouais, les éléphants du PS, ils sont fait légèrement dompter par le cirque,
ouais,
Bouclione.
Exact. 95-0, les Spurs face au PS, match arbitré par le dieu de la blague, Dieudonné.
Merci du sport. Le supplément week-end revient après les pubs. De suite, là, sur FMR.
Le morceau s'appelle Zinedine Zidane. Non, il n'a pas été du tout composé pour un joueur de foot. Donc, bien au contraire, on m'a dit qu'il a été composé pour quelqu'un qui mange des yaourts. Allez, on y va les boulots.
À l'aube du début, du commencement, du départ, du coup d'envoi des matchs de la Coupe du Monde, FMR se transforme en tripot clandestin.
En effet, en pariant sur les résultats de certains matchs, ta discothèque pourra s'enrichir de CD et d'autres objets de grande valeur.
Pour tenter ta chance, un seul numéro, 05 61 583 512.
Voici la liste des matchs sur lesquels tu pourras jouer.
Le 9 juin, Allemagne-Costa Rica. Le 12, États-Unis, Tchèque. Le 13, France-Suisse. Le 14, Tunisie-Arabie Saoudite. Le 15, Suède-Paraguay. Le 16, Pays-Bas-Côte d'Ivoire. Le 19, Espagne-Tunisie. Le 20, Suède-Angleterre. Le 21, Portugal-Mexique. Le 22, Japon-Brésil. Et le 23, Togo-France.
Alors rendez-vous le jour même du match au 05 61 583 512 jusqu'à 18h. Les résultats seront proclamés le lendemain.
Putain, la fête de la musique sur FMR.
C'est tous les jours, tous les soirs.
Mais le 21 juin...
C'est au 49 rue des Couteliers.
Devant le Music Shop des Poèmes.
Qu'on va bastonner la façade FMR.
Toute la radio présente...
Ou presque.
Electro Deluxe.
Flim Flam.
DJ Yules.
Trinidad.
Freddy Massif.
JVK.
Et Broken Toy.
Digitro.
Landers.
Peyo.
Elias.
Pacha.
Et 7 Inch.
Tous les styles pour toutes les danses.
Putain, ça va envoyer le steak, eh.
Et la purée.
Les jours de la fête de la musique, le serpent blanc viendra s'enrouler autour de ton cou. En effet, Coverdale et les autres sexagénaires qui forment le White Snake s'arrêteront en ville au Havana Café pour une date unique en France. Ouais. Alors, le 21 juin, il n'y aura pas trop de graisseux dans les rues de Toulouse. Par contre, au Havana, si les fans commencent à remuer la tête, on devrait pouvoir remplir 3 ou 4 friteuses. Rock'n'roll. White Snake, le Havana Café, mercredi 21 juin. Rocktime vous invite pour la 20e fois à vivre un été rock. Trois jours de festivités du côté du Cap Découverte de Blenheim-les-Mines. Une soirée d'ouverture le 22 juin et deux grosses soirées les 23 et 24 juin où deux scènes seront installées et accueilleront 15 groupes sur deux jours. Mickey 3D, Dionysus, Kill the Young, les Wampas, Editors, les Hurlements de Léo et Sergent Garcia comme tête d'affiche du Summer Rock Festival de Blenheim-les-Mines. Des 22, 23, 24 juin au Cap Découverte, Blenheim-les-Mines, Summer Rock.
Et on revient du sport, toujours du football.
Le football avec l'audience record, mais alors carrément record, ils ont carrément battu la finale de 98 qui avait été la meilleure audience télé, il me semble. Un match éliminatoire, je pense.
Ils l'ont battu en part de marché, c'est-à-dire pas en nombre de gens, mais en pourcentage de gens qui regardaient la télé à ce moment-là.
Ouais. Voilà. Non, mais là, carrément mardi soir, donc vous êtes au courant, en fin d'après-midi. Et pourtant, ça a été chiant comme la pluie. Faut pas déconner quand même, quoi. Enfin, j'y reviendrai un peu plus tard.
Tu t'avances pour ton émission là.
Ouais. Mais il y a eu 19 millions de personnes en France pour regarder ce match pourri du début pratiquement jusqu'à la fin. Et
19 millions de clampins qui ont déserté leur boulot.
Ouais. Et alors c'est Patrick Lelay, le plus surpris en plus, Patrick Lelay, le patron de TF1, qui s'attendait dans ses pronostics les plus fous, on va dire, à 11-12 12 voire 13 millions de téléspectateurs, ce qui est déjà pas mal.
Ouais,
parce que bon, c'est à 18h, hein, faut pas déconner, quoi, tu vois. C'est à 18h, bon, il y a encore des gens qui sont sur la route, qui sont en train de quitter le boulot, et tout ça, quoi. 19 millions, quand même, c'est énorme.
Et hey, TF1 a combattu la TNT à mort.
Ouais, ouais.
Et tu sais que j'en connais pas mal qui l'ont suivi. Je sors la petite clé USB qui fait récepteur TNT sur l'ordi du bureau. Paf, je la branche. Je sors l'antenne, je capte TF1, je regarde tranquille.
Terrible, voilà. c'est terrible.
C'est énorme.
C'est terrible. Et là, le Lair, il a quand même dû avoir un petit peu les boules, je pense, hein, parce que bon, on sait que les spots télé. Le prix des spots pub pour les affiches les plus alléchantes, à savoir les demi-finales et la finale, vont atteindre des taux records, hein, genre je crois c'est 250 000 euros les 30 secondes, enfin, 250 000 euros les 30 secondes, un truc énorme. Hein, c'est,
oui, tout à fait.
Rendez-vous compte, c'est énormément de pognon, hein, pour un truc que tu vois à peine, hein, comme ça, quoi. Mais c'est pendant la finale ou la demi-finale. Et là, c'est vrai que c'était pas négocié, donc c'est con parce qu'ils ont loupé une affaire énorme, là, hein, quand
Ouh,
même.
Si, si, hein, ils reviennent en arrière justement quand c'est les contrats, c'est en fonction du nombre de personnes vues, c'est-à-dire que tu paies en fonction du nombre de personnes qui l'ont vu. Donc si jamais l'émission n'a pas marché, tu gagnes de la compensation et des diffusions supplémentaires. Et justement, si tu as un contrat à long terme avec TF1, ça t'a mis des sous en enfin c'est la négociation, les mecs sont toujours au téléphone.
Ouais, c'est pour ça, le lait, quoi, il a quand même dû l'avoir un petit peu mauvaise, à mon avis.
À mon avis, il a dû être bien content. C'est un truc qu'on aime bien. T'as passé en plus la semaine dernière. C'est le même morceau d'ailleurs. Erwan. Et c'est une reprise de Renaud.
De Renaud, ouais.
Absolument génial. C'est énorme.
J'étais à la cool, tranquille, ça se passe, short et narade. À la ramasse, le type a surgi dans la place. Sur un scooter façon Mad Max, puis il s'est approché de moi. Mon mal regard, je le sentais pas. T'as le trois quarts, ma caille, c'est pas les sky. Moi je me les gèle sur mon booster, avec ça je serais un vrai rappeur. Alors ma gueule, tu la ramènes, je vais t'apprendre à jouer à Tekken. Fais-moi ton cuir, je suis trop vénère. Moi je lui ai dit, lâche l'affaire. Il m'a mis un look kick. J'ai esquivé, sourire, l'a enchaîné, retourné, je lui ai filé mon cuir. J'étais à la cool, tranquille, ça se passe, sortais d'un rad, bouffé un grec, le type a surgi sur le boulevard. Dans un coupé, il était pas net, puis il s'est approché de moi. Combat de regard, je le sentais pas. Wesh, wesh, gosse beau, t'as sorti le fut à la cigale, c'est trop de la balle. Regarde comme il craint mon baggy, avec le tien j'serais un vrai MC. Viens faire un tour dans ma merco, je vais t'apprendre ce que c'est qu'un braco. Tu sais j'suis croque de ton streetwear, moi je lui ai dit, lâche l'affaire. Il m'a fait une balayette, je lui ai mis un frontal, t'as enchaîné coup de tête, je lui ai filé mon futal. J'étais à la fraîche, je me faisais zizir, je buvais ma Rubix dans le RER. Les lascars ont surgi dans le wagon, ils étaient 15, c'était pas bon. Puis le Stockman s'approche de moi, combat de regard, je le sentais pas. Matt le Kidam, il a les Air Max à Jordan. Alors Blanbec, t'aimes le basket? Bah on va wesh à ma façon, je vais juste un peu changer les règles. On est les joueurs, toi t'es le ballon, file-nous tes pompes, enculé de ta mère. Moi je lui ai dit, lâche l'affaire. M'en mis deux, trois que là. J'ai fait, ah ouais les mecs, j'ont sorti un pushka, j'ai filé mes baskets. La morale de cette pauvre histoire, c'est que quand t'es tranquille et peinard, il faut mieux rester dans les bars, surtout quand tu commences à boire. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil en chaussettes, pour avoir de l'imagination, pour inventer un bon remake.
Midi 45 et du sport entame les séries télévisées. Ah.
avec pas de nouveautés, pas d'inédits, hein, bah, c'est normal, hein, on est en plein mondial, laisse tomber, c'est pas la peine, hein, de toute façon, il va falloir attendre. Attention, fin juin, là, hein, c'est-à-dire le début des vacances, en fait, enfin, plus ou moins le début des vacances, des mois d'été, là, il va y avoir de grosses nouveautés, de grosses sorties, hein. Là, ça va faire très très mal, hein, quand même, hein. Attention, là, hein, vers la fin du mois de juin, hein, quand même, hein, que ce soit du côté de Canal+, du côté d'M6, enfin, bon, on y reviendra, hein, de toute façon. Là, pour l'instant, pas mal de rediff ou de programmes qui sont diffusés en chaîne plus claire, on va dire, que d'autres, que les diffusions originales. Tout d'abord, de la rediff, mais ça, c'est de la bonne qualité quand même, hein, c'est de l'anglais et ça s'appelle Cavana. Cavana, le personnage est un avocat en Angleterre et donc de ce fait il porte la fameuse perruque, hein, tu sais, les perruques blanches là qu'ils ont là,
et
ils les ont, hein, de toute façon ils les ont toujours, hein, dans les tribunaux et tout. Je veux dire, franchement, moi je me suis fait juger une fois en Angleterre, mais bon, il y avait un avocat qui se défendait en avec, il met sa perruque au moment de rentrer dans le tribunal, tu vois. Ils ont tous leur perruque. Chez nous en France, ils ont leur
du sport. Du sport, ton casier judiciaire n'intéresse pas vraiment.
Ouais, tu les vois en France et ils ont leur robe sous le bras des fois.
Oui, d'armine et tout ça.
En Angleterre, ils ont la perruque en plus dans la mallette, tu vois. Alors Cavana, c'est là, il vaut surtout pour parce que déjà, hein, c'est de la série anglaise, donc on peut dire d'excellente qualité. En plus, interprété par un certain John Thorne. John Thorne, qui d'ailleurs est décédé il y a pas si longtemps que ça, en 2002, hein, il est mort d'un cancer. Et au cours d'un tournage, enfin bon, pas sur le plateau, mais enfin pendant le tournage d'un épisode de Cavana, hein, d'ailleurs, en 2002. John Thorne, on le connaît mieux parce que avant d'interpréter ce personnage de Cavana, qu'il a commencé de Cavana en 94, on le connaissait également sous le trait de l'inspecteur Morse, bien entendu. Le personnage créé par Colin Dexter. Et il avait également interprété d'autres rôles dans une série qui a fait fureur outre Channel. Bon, enfin, chez nous, ça nous dit rien du tout, du tout. Ça a été d'abord un livre qui a été un best-seller, mais alors énorme, de l'autre côté du Channel, enfin surtout chez les Anglo-Saxons, qui s'appelle A Year in Provence, une année en Provence. Et ils ont décidé de tourner la série télé à propos de ce truc-là. C'était interprété par John Thorne. C'est l'histoire d'un Anglais, je crois, qui est peintre et qui s'installe en Provence. Et donc, il fait la connaissance des différentes personnes et il confronte, bien entendu, leurs différentes cultures qui n'ont absolument pratiquement rien à voir. Voilà, c'est ça. Et bon, et ça a bien cartonné, hein, de toute façon. Alors, John Thorne, qui a également joué, qui est également flic dans une série du milieu des années 70. Une série anglaise également dont je me rappelle pas le titre, mais enfin bon, tant pis. Là, ça vaut le coup parce que c'est mercredi prochain sur TMC et c'est le premier épisode de Cavana, hein, donc cette série sur la justice anglaise qui s'appelle Rien que la vérité avec Ewan McGregor, si tu veux.
Ah ouais, hein,
avec Lisa Arrow et avec Daisy Bates, le premier épisode donc de cette série Cavana, dont John Thorne a interprété 39 fois, il y a eu 39 épisodes, hein. Enfin bon, c'est des longs métrages, hein. C'est pas des formats séries, c'est-à-dire 50 minutes, c'est plutôt du 1h15 voire 1h30. Rien que la vérité, donc, avec Ewan McGregor, qu'on a vu également, hein, dans une série anglaise avant qu'il se fasse connaître pour son rôle dans Trainspotting, puis après c'est une vedette mondaine, et puis vas-y,
ouais, bah non, il tourne
je te manie
partout,
le
vas-y.
Sabre laser et tout, là, mais au départ, il était un petit peu connu déjà à la télé anglaise parce qu'il interprétait un rôle récurrent dans la série, une comédie, cette série en comédie musicale qui s'appelle Lipstick on Your Collar. Où tu vois des trucs où ils chantent et tout. Enfin bon, il y a des chœurs, il y a de la danse et tout. Vraiment comédie musicale, mais fait par les Anglais avec Ewan McGregor dans un des rôles principaux. Donc c'était une des premières apparitions. Donc Ewan McGregor sur les écrans. Donc je vous rappelle, hein, donc Cavana, c'est mercredi prochain à 22h35 sur TMC. Bah, c'est juste après un épisode de Inspecteur Morse. Le personnage créé par Colin Dexter, qui l'a d'ailleurs tué à un moment dans le truc. On a filmé également, il y a le téléfilm également, la fin de Morse et tout, tu vois, qui crève et tout. Comme dans le bouquin, hein, d'ailleurs, hein, de toute façon. Sinon, alors ça c'est sur TMC. Sinon, il y a pas mal de Canal Jimmy. Alors ce soir, New York United spécial, on a de la chance parce qu'il y a un match de foot. Donc On est sûr que ça se termine à l'heure. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de dépassement. C'est du direct. Tu vois, ils peuvent rajouter leur tunnel de pub. Ça fait quand même que New York Unité Spéciale passe plus tôt que d'habitude.
Oui, enfin, déjà, sauf si prolongation.
Il n'y a pas de prolongation. Non, il n'y a pas de prolongation. Là, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir, les arrêts de jeu. Enfin, bon, généralement, t'as une moyenne de 3 à 5 minutes, on va dire, des arrêts de jeu.
Ouais, mais on trouvera bien.
Gros incidents, enfin bon.
On trouvera bien le moyen de passer les résultats du loto.
Ouais, mais non, mais le résultat du loto compris, hein, bien entendu.
Ah, ah
ouais, dans le tunnel de pub, t'as le résultat du loto. Ça permet justement de passer encore plus de pubs.
Ah ouais, je connais l'astuce.
Ouais. Alors, New York Unité Spéciale, c'est 2 épisodes par samedi soir, dont le premier est de la saison 7, donc complètement inédit. Alors, Stabler, c'est Christopher Meloni. Lui, il est en instance de divorce. Il vit séparé. Depuis qu'il a pété la tête à Robert Patrick dans un épisode, un des premiers épisodes de la saison 7, il n'est plus vraiment lui-même. En plus, après, par la suite, il a planqué des preuves qui pouvaient incriminer le fils d'un ex-pote à lui, qu'ils étaient collègues tous les deux, tu vois.
C'est la mauvaise pente, là.
C'est la mauvaise pente, ça la fout vraiment très mal. C'est pas bien. Tutuola, il n'est pas mieux non plus, parce qu'il a découvert que son fils était gay. Alors bon, Tutuola, interprété par Ice-T. Le gros stéréotype quand même, hein, que les blacks seraient plus homophobes que les blancs. Enfin bon, tu vois, quand même, qui transparaît un petit peu, à mon avis, quoi. Et Munch, lors d'une fusillade, il a reçu 2 balles quand même, une balle dans le bras et une balle dans la fesse, ce qui fait que tout le monde se fout de sa gueule maintenant. Voilà où je vous en sors les choses, hein, dans cette unité spéciale New York Unité Spéciale. C'est ce soir, donc, à 23h05 sur TF1. Attends, j'arrête pas de tourner la page. Sur Teva, on a des trucs pas mal, et on a, en plein mondial, ça valait le coup. Ils ont sauté sur l'occasion, hein. Ça avait déjà été diffusé, cette série.
Les femmes de footballeurs.
Ouais, femmes de footballeurs, ouais. Je pense sur France 4.
Sur 4, oui.
Hein, sur France 4. Là, connaissant Teva, qui diffuse bien les séries dans l'ordre et tout, ça va valoir le coup quand même. Vendredi prochain, carrément 4 épisodes, dont le pilote, hein, c'est-à-dire pour faire connaissance avec ses nanas, Suzy Amy, il y a Zoe Locker et Catherine Monaghan dans les rôles principaux, c'est-à-dire ce que peuvent faire les femmes de footballeurs qui jouent, qui évoluent dans des clubs où ils sont payés, champagne, vas-y, amant à gogo, tous les clichés, tous les...
Ouais, c'est Desperate Housewives de milliardaires.
Mais tout, vous avez absolument tout, mais c'est vachement bien foutu, c'est vachement bien rendu. Hein,
c'est en plus le cadrage très anglais des séries en extérieur, reportage, avec des longues focales et tout ça.
C'est vraiment impeccable. Ouais. Hein, c'est une série à suivre. Hein, de toute façon, c'est sur Teva vendredi prochain à partir de 20h50. 4 épisodes carrément dans la soirée. Sinon, tout le reste, je crois, c'est du Canal Jimmy. Alors qu'il ne fait pas dans l'inédit, mais plutôt dans la rediffusion. S'il y a un semi-inédit, parce que Présomption est une série qu'on avait vu sur Canal+, donc encrypté. Là, c'est la première fois qu'on peut le voir plus ou moins en clair, enfin, sur une des chaînes du câble satellite. 100 ans, Présomption, donc encore de l'anglais, avec Robson Green. Ah ouais, Robson Green, ouais.
Non,
je le dis,
tout, je
Robson
pas.
Green, si. Il y a également Tara Fitzgerald et Gemma Redgrave, qui est la petite fille, la nièce de... chercher du côté des Redgrave et des Richardson, vous aurez compris. c'est un thriller psychologique en 2 parties, 2 fois, 1h15. Ça tape du côté, on va dire, de trucs assez sanglants, hein, généralement. De toute façon, une histoire de gosse, hein, qui découvre que son père a été condamné pour le meurtre de 4 nanas. Enfin bon, truc bien glauque, à l'anglaise, comme ils savent le faire. C'est sur Canal Jimmy demain soir à partir de 20h45. Sinon, dans un registre complètement différent, mais alors là, vraiment du plus gay, hein, y a pas de problème. Il y a également... Whoopi, la rediffusion, Whoopi Goldberg, qui a fait sa propre série, hein, qui s'appelle Whoopi, elle interprète Mavis, une ex-chanteuse défoncée hippie dans les années 70, qui est propriétaire d'un hôtel, alors qu'il va défiler plein de monde, plein de gens et tout.
C'est très sitcom, hein.
C'est sitcom, mais ça vaut. Alors surtout, il y a une séquence qui est devenue culte, parce qu'elle est, je sais pas si on la voit dans les premiers épisodes, mais elle devient pratiquement récurrente dans chaque épisode, et c'est vraiment culte, parce que c'est la partie de cartes entre les 4 nanas. Il y a 4 nanas qui jouent aux cartes comme ça, au poker et tout, et elles font des réflexions, mais vraiment des réflexions à la beauf, tourné du côté nana, quoi. C'est un régal, c'est vraiment un régal. C'est à regarder en VO, hein, de toute façon, absolument. Et c'est vraiment assez bon. Whoopi Goldberg, elle est excellente, hein, c'est une très bonne actrice, il n'y a pas de problème. Elle a su s'entourer également d'acteurs et d'actrices moins connus, mais qui tiennent vraiment la route également. Donc c'est assez plaisant à voir, à découvrir, hein, ça vaut le coup, à revoir également de toute façon.
Et si c'est sur Jimmy, normalement c'est en version multilingue.
C'est en version multilingue, hein, donc c'est sur Jimmy, c'est diffusé vendredi prochain à partir de 20h45. Il y a deux épisodes à la suite, dont le pilote, hein, donc vous pouvez faire connaissance avec Whoopi et ses employés, dont son frère qui habite dans l'hôtel, enfin bon, ses zones, quoi. Enfin, mais c'est pas mal, ça vaut vraiment le coup. Sinon, on a également rediff, non, c'est pas de la rediff. C'est de l'original, mais enfin bon, c'est la saison 2 en fait. Et là, bah, tu vas pouvoir me sortir ce que tu me disais à chaque fois sur Jérémia, la saison 2 qui démarre sur Canal Jimmy mardi prochain.
C'est une catastrophe
prochain.
Cette série, mais c'est n'importe quoi quoi. La BD originelle est tellement mieux. Je me demande, je m'étonne encore comme, que Herman ait laissé passer une horreur, une ignominie pareille. Jérémia, c'est bon. Alors, on va vous faire le résumé. Ça se passe, c'est un post-apocalyptique où tous les adultes sont morts. Il reste que les gamins ont grandi, ils ont atteint l'âge adulte, mais d'un côté ils sont immatures, de l'autre côté ils maîtrisent mal la technologie, donc c'est pour ça que dans la BD Jérémia se déplace plus souvent à cheval, à pied, etc. qu'en moto quoi.
Ouais. Non. Mais là ils ont des camions, enfin ils ont tout là. Hein.
Oui, c'est Mad Max mal branlé quoi. C'est n'importe
non,
quoi.
Non, quand même. Hein. C'est interprété par Luc Perry.
Je crois que je l'ai passé à Madame Colombo, quelque Jérémien.
Ouais, c'est vrai. Elle préfère la série, tu vois quoi.
C'est vrai, c'était en plein milieu de la série BD.
C'est surtout parce qu'il y a Malcolm Jamal Warner hein, qui est dans la série, là, le grand black là. Qui est pas trop mal, qui est l'alter ego, on va dire, de Luc Perry, un peu son buddy, hein, le mec qui le suit tout le temps. Il y a également Y. Calvelars qui joue dans cette série qui s'appelle Jérémia, qui vous diffuse donc les deux premiers épisodes de la saison 2. Deux épisodes, première et deuxième partie, le gouvernement de Valhalla. Alors toi, tu connais la série, c'est quoi ce gouvernement de Valhalla dans la série?
Ah, je ne saurais te dire, malheureusement, c'est parce que la série est assez longue, elle dure depuis très longtemps. C'est paru dans le journal de Tintin, voilà, si je me souviens bien. Et malheureusement, non, j'ai pas tout suivi, ni même tout lu. C'est assez énorme. À mon avis, effectivement, c'est en référence nordique, etc. Mais ça se passe dans l'Amérique du Nord, hein, de toute façon, si je me souviens bien.
Ok,
pour
terminer, on va monter en Écosse, à Glasgow, pour cette série qui s'appelle Tinseltown, qui est également diffusée par Canal Jimmy. Bon, enfin bon, c'est pas de l'inédit, hein. J'avais aperçu ça sur une autre chaîne, mais je me rappelle pas laquelle. C'est diffusé par Canal Jimmy lundi 23h05. Alors ça a commencé la diffusion la semaine qui vient de se passer, mais il y a une rediff des deux premiers épisodes de Tinseltown lundi prochain à 23h05 avant les autres épisodes, c'est-à-dire le troisième et le quatrième. La saison 1 compte 10, qui aura lieu cette diffusion jeudi prochain à partir de 20h45. Donc attention, c'est quand même estampillé moins 10, hein. Donc alors c'est quoi Tinseltown? Eh bien, ça raconte la vie de plusieurs personnes à Glasgow. La plupart d'entre elles sont jeunes, un petit peu portées sur la fête, c'est-à-dire bon, on va dans les rêves, on gobe de l'extase,
on picole, on fume.
Ça c'est logique, hein, mais ça fait partie de la vie et tout. Et parallèlement, un couple de flics, mais pas couple dans la vie, enfin ils sont
un binôme,
composé d'un mec et d'une nana, et tout ça dans Glasgow. Et bon, c'est filmé pratiquement sur le vif, hein, tu vois, il n'y a pas tellement de mise en scène, enfin pas tellement de soins dans les décors, c'est vraiment presque lumière naturelle, les décors naturels et tout, in situ quoi, tu vois, et ça donne un truc qui est pas trop dégueulasse en fait, à suivre en version originale. Alors là vraiment il faut capter à fond les manettes parce que c'est du vrai Glaswegian, donc laissez tomber, hein, si déjà vous maîtrisez pas bien l'anglais c'est même pas la peine. Alors là il parle à moitié écossais, c'est vraiment très très chaud. Mais c'est quand même pas mal.
Ça va, c'est pas du gallois, hein.
Non, c'est pas du gallois, t'as raison. Pour ça, on est gagnant quand même. Mais ok, hein, c'est quand même très très chaud. Tinseltown, donc lundi prochain, donc les deux premiers épisodes à 23h05. Et jeudi prochain, les épisodes 3 et 4, la saison en compte 10. Et voilà, et je termine putain à l'heure.
Et bah voilà, bah ça y est, c'est déjà fini. 13h36 secondes sur ma montre que je n'ai pas synchronisée. C'est vrai que là c'est énorme, c'est quasiment une première. Non, je déconne. C'était Supplément Week-end sur Radio Éphémère 89.1 MHz, une émission présentée, réalisée et coécrite avec du sport Xavier. Le titre principal de ce numéro, ben, c'était la disparition de Roba, le père de Boule et Bill. Et puis sinon, eh ben, on a parlé un peu de séries télé, de score au foot, mais score d'audience. Et sinon, en bande dessinée, on a parlé de sorcellerie, de arts martiaux chinois et aussi de western spaghetti. Si vous avez manqué l'émission, eh ben, sachez que vous pouvez la réécouter en intégralité sur notre site web, en podcast, en OGG et en MP3. Vous pouvez aussi participer sur le site de la radio, c'est là où vous trouverez plus facilement les liens vers notre émission sur www.radio-fmr.net. Eh ben, vous pouvez réécouter l'émission, mais aussi participer au supplément week-end Fantasy Mondial, faire des paris, collectionner les vignettes et voir nos tronches carrément, ou voir les résumés que l'on a préécrits. C'est plus facile pour tout le monde. Donc voilà. Donc cela tombe bien. Ceci dit, eh ben, supplément week-end se termine et ma foi, eh ben, qu'est-ce qui va suivre de suite sur Radio FMR? Et ben à 15h, vous allez retrouver en mode progression. À 16h, c'est Big Bang. 17h, Vie d'ordure. 19h, Happy Rare. 20h, la Cetero Experience. 21h30, Liquid Sky. 23h, Breakbeat Experience. Et en direct sur les 89.1 MHz jusqu'à 5h du matin. Et ceci dit, et ben, si vous voulez nous rencontrer, je pense que mercredi prochain, vous allez nous voir. Et ben, où ça? Et ben, la fête de la musique sur le plateau d'Éphémère. On sait jamais. On verra. Voilà, ciao, je vous laisse. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Thomas, j'espère. Dans 168 heures exactement, samedi à partir de midi, supplément week-end. Ciao, bye, bis.
C'est toujours Radio FMR et je suis passé de l'autre côté. Vas-y, lance la balle, vas-y. Hop, ouais, sur le micro. Au programme, bah, pas mal de foot. Bon, on va attaquer avec les faits d'hiver. Et là, c'est que des faits d'hiver qui concernent le foot et le mondial. Également d'autres sports au programme. Comme j'ai pas vraiment préparé, je peux vous dire qu'il y aura du basket, de la boxe. Il y a du rugby également. Et de la moto. ça c'est le panini.
Donc il y a un cahier panini sur la région du FMR, on l'a trouvé, voilà.
Allez, un petit peu de musique avant d'attaquer ces faits divers.